Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur France Culture. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une histoire du temps présent avec l'historienne Michèle Rio-Sarcey, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, spécialiste d'histoire politique française. Elle a contribué à introduire le concept de genre en France, lire ou relire de la différence des sexes et le genre en question, pouvoir politique, écriture de l'histoire, paru dernièrement. Et le réel de l'utopie, paru en 98 chez Albin Michel, dont le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, paru en 2016 à La Découverte, s'inscrivait dans le prolongement. Elle vient de diriger avec l'historienne Claudia Moati. Pourquoi se référer au passé, qui paraît aux éditions de l'Atelier? Pourquoi s'y référer et comment l'interpréter? L'historienne y préconise de restituer à la connaissance du passé tout son potentiel critique pour nourrir nos actions, plutôt que de tenter de rejouer le passé. Penser l'histoire dans un temps qui ne serait pas linéaire, mais toujours recommençant, en mouvement, en progrès. Bonjour Michèle Rio-Sarcey.
Bonjour.
En quoi le fait de se référer au passé se distingue-t-il réellement de l'usage du passé? En quoi la référence est un bon usage, si on peut le dire comme ça, du passé ou tout autre chose pour vous?
Nous ne maîtrisons pas la référence, mais je crois que ceux qui usent du passé en maîtrisent l'instrumentalisation. Et la différence, elle est difficile à faire entendre, mais très simple à comprendre. Beaucoup d'autorités religieuses, politiques, ont de tout temps usé du passé, interprété à leur manière afin de légitimer une orientation politique, une pensée commune ou que l'on voudrait imposer en quelque sorte. Et la référence, c'est totalement différent. On ne l'attend pas. C'est un événement, une idée, une intervention subite, inattendue, et qui se mêle en quelque sorte à un présent complexe, comme si les idées du passé, jamais enfouies, ne pouvaient être effacées, et a fortiori encore moins forecloses. Elles cheminent de manière à leur rythme et de manière un petit peu inattendu, c'est-à-dire que personne ne maîtrise rien. Et à un moment, à la faveur d'une difficulté, ou à la faveur d'un conflit, ou d'un antagonisme multiple et différent, en quelque sorte, selon les périodes, elles ressurgissent. Et les individus, les collectifs, les personnes, s'en emparent à leur manière. J'ai un exemple qui pourrait vous éclairer, me semble-t-il, extrêmement contemporain. Pendant les manifestations contre la loi El Khomri, beaucoup de manifestants et de manifestantes, surtout, je le note, avaient un badge où on pouvait lire « Non au retour à Germinal ». Pourquoi « Non au retour à Germinal » ? J'ai donc interviewé un certain nombre de personnes qui portaient ce badge et je leur ai dit « Est-ce que vous avez lu ?» le livre de Zola? L'une d'entre elles m'a dit pas du tout, mais je sais ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est comme si un passé enfoui renaissait à la faveur d'une critique, à la faveur d'une crainte ou à la faveur d'un espoir. Et à ce moment-là, les choses se déroulent à la manière de chacun et on essaye d'expliquer soit il n'est pas question de revenir à hier, et au contraire, hier nous a déçus, les promesses qui étaient envisagées n'ont pas été réalisées. C'est ainsi que 1789 n'a cessé d'être réactualisé, parce qu'il y avait une promesse que décrit très très bien Edgar Quinet un peu plus tard, la Révolution a ouvert la voie à l'impossible.
Mais citer Germinal dans une manifestation comme celle-ci, contre la loi El Khomri, contre la réforme du travail, c'est une image qui parle tout de suite. C'est peut-être moins la convocation d'un événement, d'une période de l'histoire, que de symboles qui sont, qu'on ait lu ou pas le roman, clairs et évocateurs pour tous. Est-ce qu'il n'y a pas toujours dans la citation du passé ou d'un événement passé une force réductrice, sans un côté péjoratif pour autant? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une sorte d'instrumentalisation du passé et une réduction des événements pour les faire parler aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr. C'est donc à l'historien de restituer l'historicité de l'événement qui renaît, mais n'avait pas été compris à l'époque où il advenait, de comprendre comment cet événement a été mis à l'écart ou enfoui, et les raisons pour lesquelles il renaît de manière discontinue. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé l'histoire de manière linéaire, et ce que l'on ne sait pas, c'est que le mouvement de l'histoire est toujours extrêmement chaotique, et ce sont des événements qui reviennent sans qu'on s'y attende. Des événements, des idées, des pensées, des compréhensions qu'on avait cru perdues. Par exemple, autre exemple pour faire comprendre un petit peu, qui ne figure pas directement dans le livre, mais qui est saisissable. Aujourd'hui, nous avons quelques difficultés à revivre en quelque sorte une histoire commune, une histoire véritablement collective, avec la multiplicité des individus qui viennent d'origines différentes. J'avais dans mon cours un étudiant où je parlais avec qui je parlais d'octobre 61. Celui-ci ignorait absolument tout des événements d'octobre 61. Seulement il savait, m'a-t-il dit, que c'était extrêmement important pour lui. Pourquoi pour lui ? Parce que, en tant qu'Algérien, il avait conscience que l'histoire ne se déroule pas de manière aussi linéaire que cela, et il avait cru comprendre que octobre 61, les événements d'octobre 61 avaient été un petit peu enfouis. Donc, à l'historien de se ressaisir à la fois des événements advenus, que l'on privilégie en général, et c'est ce que nous avons rendu compte dans ce livre collectif, et en même temps, comprendre tout simplement ce qui advient après coup, sans que personne ne l'ait appelé, quelque chose qui était incontestablement inattendu. Comment ce passé renaît, ressurgit ? Et c'est pourquoi nous avons posé la question, Claudia Moati et moi-même, à toute une équipe, en quelque sorte, qui s'est constituée selon les affinités intellectuelles et amicales, et qui perdure aujourd'hui. Et nous avons travaillé hors de l'institution. Parce qu'à l'heure actuelle, la recherche à l'université est malgré tout un peu malmenée. Les chercheurs doivent répondre à des appels d'offres. C'est un peu curieux et ça empêche la créativité intellectuelle.
Donc là, vous n'avez pas lancé un appel d'offres ?
Pas du tout. Nous nous sommes réunis régulièrement pendant près de 4 ans, même un peu plus, et à notre rythme, chacun est pris dans son travail hein, universitaire, à la fois professeur, chercheur, tous ne sont pas historiens, mais tous sont chercheurs, générations différentes, et nous nous sommes pris au jeu. Jamais nous avions l'intention au départ de publier un livre, c'est venu comme ça, et nous avons tenté de répondre ensemble, dans des débats continus, chaque article a été lu et relu par chacun, voire réécrit, pour essayer de répondre à cette question, une question que tout le monde se pose. Ici même, en entrant, une des personnes qui est à l'entrée m'a posé la question, pourquoi se référer au passé ? Ah ben surtout pas, ne pas se référer au passé, parce que c'est oublié. Et précisément parce que on veut effacer le passé, dans la sélection, c'est-à-dire par l'usage, l'instrumentalisation en général des politiques. Notre sénateur, tout à l'heure, immédiatement, en voyant le livre, a expliqué immédiatement, c'est la référence à Napoléon III. Et précisément, c'est ce qu'on veut éviter. Cette référence au passé, il faut suivre le mouvement des collectifs et des individus qui s'emparent d'une fraction, d'un moment, d'une idée, et qui l'interprète de manière actuelle. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Alors vous évoquiez, Michel Rieu-Sercel, l'importance du travail de l'historien. On peut peut-être l'appliquer aussi à la question de la mémoire qui nous engage, là encore, et nous travaille régulièrement, celle de la mémoire collective. Je vous propose en introduction d'écouter Henri Rousseau, directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent au CNRS, qui a lui aussi beaucoup réfléchi aux usages du passé.
C'est une question qu'on pose pas. Voilà, c'est pas qu'elle est taboue, mais on la pose pas. Et quand on la pose, on dit mais quel intérêt de poser une telle question ? Les politiques de mémoire vont de soi, elles sont indispensables. Il faut se souvenir, il faut accepter le devoir de mémoire comme une fonction démocratique, bon, très bien. Or, c'est une question, à mon avis, qui est importante, parce que les politiques de mémoire ont plusieurs objectifs affichés. C'est pas l'historien qui parle. C'est dans les discours, François Hollande ou d'autres le disent clairement. Il y a d'abord le tribut, enfin, pour faire un anglicisme, l'hommage qu'on va donner aux morts. Bon, très bien, ça c'est dans la tradition, c'est pas spécialement nouveau. Il y a aussi le plus jamais ça, qui est aussi une sorte de ritournelle. Donc ça voudrait dire quand même que ces politiques de mémoire sont censées nous prémunir contre le retour d'eux, alors de l'antisémitisme, du racisme, de la guerre, bon, etc. Et puis il y a aussi l'idée que plus on manifeste ce devoir de mémoire, plus encore une fois nos sociétés apparaîtront comme démocratiques, ouvertes, égalitaires, etc. Bon, pourquoi pas. Mais dès lors qu'il y a un agenda politique. Quand je dis politique, ça veut dire qui prend position non seulement sur le passé, bon, les victimes d'hier, mais sur le présent ou sur le futur, eh bien, on peut attendre au moins une réflexion. Or, il n'y en a pas.
Alors, faut-il des politiques de mémoire, Michel Rieux-Sarcey? Parce que c'est intéressant, vous dites qu'à la fois le passé, l'histoire, s'il est bien compris, si on s'y réfère à juste titre ou de manière pertinente, peut aussi nourrir l'imaginaire politique, peut aussi nourrir l'action. Mais est-ce qu'il faut laisser le soin aux politiques de définir ce qui doit faire mémoire?
Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne sais pas très bien ce que peut vouloir dire la politique de mémoire. Simplement, la mémoire, elle ressurgit, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce processus que nous étudions dans la référence au passé. Alors, il est vrai que la politique de mémoire a pignon sur rue, d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire insister sur le devoir de mémoire? Je crois qu'Henri Rousseau a raison. Comment imaginer le retrait, la mise à l'écart, la non-effectivité de l'antisémitisme avec ce devoir de mémoire? Or, on sait aujourd'hui que l'antisémitisme, comme le racisme, comme la misogynie, ressurgissent. Et donc, tout ce qui a été enfoui dans le passé, tout ce qui n'a pas été pris en compte par les politiques, parce que ça gênait, parce que ça ne faisait pas l'unanimité, l'affaire Dreyfus est, me semble-t-il, exemplaire à cet effet, puisque on le sait, beaucoup de Dreyfusards, avant le J'accuse de Zola, avaient pris des positions ambiguës. Lazare était bien seul. Et c'est pas parce que la République troisième de nom s'est constitué en quelque sorte sur cette affaire que pour autant les éléments antisémites ne figurent pas. Or, précisément, toutes les critiques, tout ce qui a fait l'opinion critique de cette époque-là n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire que l'antisémitisme, la misogynie, le racisme, c'est concomitant de la Troisième République. Et toutes ces questions ressurgissent. Le devoir de mémoire n'y peut rien. Mais la mémoire enfouit ceux qui ont été à la fois victimes et sujets de leur propre cause, bien sûr, laisse des traces. Et ces traces sont récupérées par les contemporains, par nos contemporains. Soit de manière, je dirais presque, approbation. Elles approuvent ce qui s'est passé, l'effacement, mais aussi tout le reste, ceux qui sont particulièrement en colère de cet effacement. Et quoi qu'on fasse, les traces subsistent.
Parce que vous dites quand même, Michel Rieux-Sarcey, ou vous l'écrivez en tout cas, qu'on est aussi dans un temps d'amnésie politique. Vous évoquez cette dictature du présent et vous présentez l'histoire comme un possible rempart à cet ordre libéral qui, je vous cite, emporte tout et ne s'embarrasse d'aucune forme de tradition.
Oui, je crois que l'histoire, c'est-à-dire la référence au passé, nous aide considérablement à comprendre et à combler le manque et les vides de l'histoire. Pourquoi aujourd'hui, dans ce néolibéralisme triomphant, où la liberté était l'équivalent de la servitude volontaire, pourquoi bon nombre de contemporains se réapproprient les utopies d'hier, se réapproprient les idées d'association de la première moitié du XIXe siècle? C'est parce que ce fut un moment exceptionnel où les individus pouvaient croire qu'ils pouvaient s'occuper de leur propre devenir. Le devenir du possible, à un moment, a été pensé comme la propriété de tous et de toutes. Or, quand on prend par exemple le concept, ou plus exactement l'idée de liberté, celle-ci a fait tous les métiers, et aujourd'hui le travestissement du sens, ou l'absence précisément de cette force utopique de liberté, qui signifiait le pouvoir d'agir pleinement, politiquement, intellectuellement, matériellement, voir que cette liberté signifie l'exploitation de soi-même et la servitude volontaire, fait réagir bon nombre de contemporains, et c'est la raison pour laquelle, dans ce libéralisme triomphant, ou plus exactement ce néolibéralisme triomphant, les utopies renaissent. À nous, historiens, de restituer l'historicité de cette utopie première, d'une certaine manière, de ce possible premier, et comprendre pourquoi, aujourd'hui, elles sont comprises pleinement dans l'actualité critique de la situation présente.
Une question d'Antoine Mercier. Après, je voudrais bien votre définition de la liberté, parce que c'est un chapitre qu'on a ouvert hier. Antoine, peut-être d'abord.
Oui, non, je voudrais juste, par rapport à ce que vous venez de dire, il me semble que vous décrivez précisément, j'allais dire, le moteur de ce que vous dites, de la théorie, de ce que vous essayez d'exprimer, c'est-à-dire le fait que ce qui revient, ce n'est pas forcément tant un événement que la possibilité que quelque chose puisse être fait à un moment donné, dans un champ donné. L'histoire recouvre de son cours les possibles, et à un moment donné, bien, on se réfère à une période où effectivement quelque chose a été possible, et on réactive cette simple possibilité. Alors on va chercher l'événement qui convient peut-être. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là le principe de ce dont vous nous parlez aujourd'hui, de cette résurgence du possible en histoire?
Bien sûr. En son temps, nous sommes dans les années 40, Adorno et Horkheimer ont posé la question: qu'est devenue l'émancipation? Comment le siècle des Lumières en Occident avait ouvert la voie à ce possible où chaque individu pouvait se penser libre, soit actuellement, soit en devenir? Où est passée l'émancipation? Et cette question à laquelle personne n'a répondu, puisque l'émancipation s'était transformée en barbarie, aujourd'hui ressurgit, que les idéologies n'ont plus cours, que le mouvement ouvrier, ou ce qui a été considéré comme mouvement ouvrier, a failli d'une certaine manière, c'est-à-dire l'espoir collectif, est tombé en quelque sorte dans l'oubli, cette émancipation n'a pas été oubliée. Raison pour laquelle cela ressurgit. Mais je voudrais revenir sur ce livre collectif, parce que tous les chercheurs, tous ceux qui ont travaillé sur cette question se sont rendus compte que ces moments historiques, quels qu'ils soient, sont, mais vraiment, remplis de références historiques, de références au passé, et chaque individu, que ce soit pendant la Commune, que ce soit en 68, que ce soit en 1936, ou que ce soit en Amérique latine, nous abordons toutes ces questions, ou en Tunisie, il y a justement cette référence qui ressurgit, ce moment oublié d'hier, ce moment mal pensé hier, qui revient, et on ne maîtrise pas cela. À nous, historiens, de restituer tout ça. À nous de dire ce qu'était la liberté en son temps, ce qu'était l'émancipation en son temps, ce qu'était la critique ecclésiastique en son temps, ce qu'était la famine en son temps, en Irlande par exemple, ce que nous disons dans le livre collectif, ce qu'était la République romaine, ce qu'était la lecture de Machiavel sur le peuple ou autre. Comprenez bien que cette multiplicité d'idées, qu'est-ce que le peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'émancipation? Qu'est-ce que ce monde est devenu face aux promesses, mais je dirais presque infini, du passé? Comment s'empare-t-on de ses promesses.
Alors comment éclairer le présent à partir du passé, notamment sur cette définition de la liberté? Allons-nous renoncer à la liberté? C'est le titre de l'essai que fait paraître notre invité d'hier de la Grande Table, le philosophe et psychanalyste israélien Carlo Strenger, qui estimait qu'aujourd'hui, l'ordre libéral reposait sur une mauvaise définition, une mauvaise compréhension de ce qu'est la liberté, liberté menacée aussi par notre besoin de sécurité, liberté sacrifiée. Quelle définition donnez-vous, vous, aujourd'hui, à la liberté? Comment devrions-nous l'interpréter pour vous, Michel Rio-Sarcet?
Je regrette, je n'ai pas pu entendre l'émission d'hier, mais j'aurais bien aimé écouter justement ce qu'il disait de la liberté.
Alors elle est disponible pendant des nuits et des jours encore en podcast ou à la réécoute.
Mais cette liberté qui est malmenée aujourd'hui, au point justement que on croit que les individus préfèrent la sécurité à la liberté, c'est une vieille question. Déjà, Emmanuel Kant, avant la Révolution française, se posait la question lorsqu'il répondait à une question collective, qu'est-ce que les Lumières? Et il estimait déjà que la bonne majorité de la population préfère la sécurité à la liberté. Il est vrai qu'être libre, c'est la chose la plus difficile, puisque beaucoup de philosophes ont posé cette question, Sartre en particulier, et cette liberté, elle est bien entendu impossible dans un monde où les autres ne sont pas libres. Sieyès déjà posait cette question. Un état où l'autre n'est pas libre n'est pas un état libre. Donc de Rousseau à Sieyès en passant par Kant, vieille question. Seulement, les gouvernants, tous ceux qui ont estimé être en capacité d'agir à la place des autres, ont estimé qu'ils pouvaient gérer cette liberté à la place. Et d'un certain point de vue, l'état social est davantage sécurisant. Et j'ai tendance à penser que ce qui a triomphé avec ce que on croit être l'état social qui est à l'heure actuelle en perdition, eh bien, j'ai cru comprendre que on a davantage valorisé les citoyens passifs que les citoyens actifs. Or, une minorité large, multiple et pas simplement d'intellectuels s'empare de cette liberté qui était définie par Pierre Leroux au XIXe siècle dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure. La liberté, c'est être en pouvoir d'agir matériellement, politiquement et personnellement, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient à la fois en capacité d'agir mais aussi d'agir individuellement mais collectivement. Impossible d'être libre seul. La liberté, face à celui qui ne l'est pas ou à celle qui ne l'est pas, n'existe pas. Raison pour laquelle le travail est immense à l'heure actuelle, puisque nous avons à concevoir un monde d'hommes et de femmes libres. Et c'est bien cette liberté qui ressurgit à l'heure actuelle avec le mouvement qui n'en est pas un, mais ce phénomène inouï, absolument incontournable aujourd'hui, où les femmes prennent conscience ce que veut dire la liberté propre.
13h21 sur France Culture, invité l'historienne Michel Rio-Sarcet qui a co-dirigé avec Claudia Moati « Pourquoi se référer au passé ?», un essai qui paraît aux éditions de l'Atelier.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Dans cet ouvrage, Michel Rio-Sarcet, vous appelez, à la manière de Walter Benjamin, à récupérer les déchets du passé pour restaurer ce passé et permettre à ceux qui habitent notre présent de l'éclairer, de mieux le comprendre. Et vous venez d'évoquer cette séquence, ce moment important dans le monde entier depuis quelques semaines, voire plus de 3 mois, celui de la libération, appelée de la libération de la parole des femmes. Est-ce qu'on peut relier ce moment, celui de la libération de la parole féminine, ce nouveau questionnement autour de l'égalité des hommes et des femmes, à la crise des migrants, voire aussi à la montée de l'antisémitisme et du racisme pour vous, Michel Rio-Sarcet?
Je crois, en apparence, les trois mouvements sont différents et n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'empêche que J'avais écrit dans un article qui n'a pas été publié encore par Le Monde, mais qui devait être publié, je liais les trois éléments, c'est-à-dire les trois phénomènes, en quelque sorte, qui surgissent à l'heure actuelle, racisme, antisémitisme et misogynie. Aujourd'hui, comme nous le disions tout à l'heure, celui qui n'est pas libre ne peut revendiquer en quelque sorte la même liberté que celui qui est libre. Donc, les deux mouvements sont concomitants. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, l'inégalité collective, l'inégalité mondiale est si criante que nous assistons justement à la venue de ceux qui sont victimes de tout, à la fois l'absence de nourriture, à la fois les conditions extrêmement difficiles liées à la guerre, et cet afflux de migrants est inévitable, quels que soient les murs que l'on dresse. En même temps, si je puis me permettre une expression à la mode, il y a cette peur, alors qu'on peut dire liée à la sécurité, cette peur dans les États, cette peur terrifiante qui mobilise des instincts les plus malvenus d'une certaine manière. On est bien d'accord pour que tout le monde soit libre, mais à condition qu'on reste chez soi. C'est bien dommage, parce que c'est impossible à l'heure actuelle. Et donc cette peur, il faut pouvoir la saisir. D'où ça vient? Pendant des décennies, nous avons expliqué que l'autre, ou nous, je dis, j'ai tendance à penser que je ne me considère pas tout à fait dans ce nous, mais l'histoire est faite de discours dominants qui ont expliqué longuement pendant des décennies que les uns étaient inférieurs aux autres. Pendant des décennies, on a expliqué, pendant la colonisation, que beaucoup de ceux que l'on colonisait avaient besoin d'une éducation. Et en concernant les femmes, ça a été la même chose. Deux siècles, presque, où on a expliqué que naturellement, les femmes sont inférieures. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que le monde est réellement à l'écoute de tout le reste, tous ces phénomènes ne ressurgissent pas? La seule chose qu'il importe, c'est précisément de faire une histoire, et surtout l'enseignement, de faire une histoire globale, une histoire commune, où tous les enjeux du passé puissent être restitués avec précisément le racisme, l'antisémitisme, la misogynie qui a accompagné les progrès de la civilisation. J'ai toujours en tête ce que disait Fourier en 1808. Il s'adressait aux philosophes des Lumières. « Bientôt, nombre d'indigents que vous mettez à l'écart aujourd'hui frapperont à la porte pour vous demander des comptes. » Le temps est venu de cette demande de comptes. Et donc, tout ceci ressurgit ensemble. Aux historiens, et j'allais dire aux politiques, mais j'ai pas beaucoup d'illusions, de se réapproprier, sans rien oublier, ce passé conflictuel, antagonique, où précisément le progrès a marché au rythme des privilèges des hommes libres au détriment de la masse des autres qui ne l'étaient pas.
Peut-être quand même sur le plan social et sur le plan de ce qui se produit par rapport à la libération de la parole des femmes notamment. J'ai l'impression que, certes, il y a des retours permanents sur la liberté, les révolutions, l'émancipation sociale, mais à chaque fois, on a l'impression que on repart ensuite pour un nouveau tour et on oublie cela. Tandis que là, avec le mouvement des femmes, on a le sentiment que d'abord qu'il n'y a pas forcément une référence absolue et que d'autre part, il se passe quelque chose de réel qui transforme la situation. Alors qu'on n'est plus, voilà, ça apparaît au grand jour et ça ne disparaîtra plus. Ça modifie le paysage. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Je pense que ça modifie le paysage et nous l'avons vu très vite. Je le dis à plusieurs reprises. Je crois qu'on a pensé que c'était lié à l'affaire Weinstein, mais je crois que c'est bien antérieur puisque le mouvement collectif a commencé en Inde. On l'avait pas entendu. D'autres, bien sûr, depuis longtemps, les mouvements féministes dénonçaient cette violence faite aux femmes. Et puis, de manière inattendue, c'est ça un petit peu la référence au passé, de manière inattendue, imprévue, pas à pas, chaque jour, une affaire, une dénonciation, une prise de conscience. Les femmes se réapproprient non seulement la parole, mais se situent en tant que sujet de leur propre liberté. Et c'est ça qui est nouveau. Ce ne sont pas des victimes qui parlent. Ce sont des personnes à part entière qui s'emparent de ce qu'elles ont été et qu'elles sont, et ce qu'elles sont devenues. C'est ça, le véritable changement. Elles disent de manière explicite ce que le mouvement des femmes disait, mais là encore, on n'a pas entendu, que l'espace public n'appartenait pas aux femmes, qu'il n'y avait aucune place dans l'espace public. Et cette forme d'expression critique est d'une radicalité, d'une certaine manière, qui sans doute remettra beaucoup de choses en cause, à condition que la dimension politique ne soit pas oubliée. Parce que si on réserve ça à la question des rapports hommes-femmes, comme ont eu tendance à imaginer certaines pétitionnaires, je crois que là, ça serait une erreur. C'est un grand mouvement éminemment politique où les rapports de l'un à l'autre englobent la totalité des individus, hommes et femmes concernés. D'ailleurs, un certain nombre d'hommes ont très bien compris la question.
Merci beaucoup, Michel Rivaux-Cercet. Apprendre aussi à lire l'histoire en creux, c'est-à-dire en donnant plus d'importance aux événements qui ne sont pas advenus qu'à ceux qui se sont réalisés. Envisager le retour du possible par le retour de ce qui a été enfoui, c'est aussi un des fils conducteurs de cet ouvrage. Pourquoi se référer au passé ? Fil que vous aviez déjà travaillé, tissé dans votre précédent ouvrage, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e en France. Merci mille fois à vous et merci à toute l'équipe de la Grande Table, à la programmation préparation Claire Maillot et Jean-Christophe Briançon, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse, très précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. La réalisation aujourd'hui, Père et le Gras, avec Alex Dang. Très bel après-midi à tous.